Vous écoutez France Culture.
C'est à présent Question d'éthique, votre rendez-vous hebdomadaire avec Monique Cantos-Ferber. La leçon des catastrophes, mal moral et mal physique, en profonde sympathie avec le peuple japonais frappé par une effroyable catastrophe. Jean-Pierre Dupuis est mon invité. Il y a quelques jours, à 14h45, un terrible séisme s'est produit au large du Japon, dans la région nord-est. Une vague haute d'une dizaine de mètres s'est abattue peu à peu sur 100 km de côte. Elle a tout dévasté sur son passage. Les morts se comptent par centaines de milliers. Les destructions sont immenses. Des centrales nucléaires sont également touchées, ce qui laisse redouter un accident nucléaire majeur. La puissance de la nature s'est abattue, une fois de plus, sur les œuvres humaines, semblant ramener l'homme à ce qu'il est peut-être, un fétu de paille, ballotté par des forces hostiles. Il s'agit d'un mal physique à l'état pur. Les hommes n'y sont pour rien, ni dans leurs intentions, ni dans leurs actions. Mais est-ce si simple? Cette séquence d'événements affreux ne sont pas sans précédent dans l'histoire humaine. Des catastrophes ont déjà amené les philosophes à réfléchir sur ce que signifie pour l'action humaine, et donc pour les conduites de responsabilité, pour la prudence à venir, l'irruption violente des forces destructrices de la nature. L'homme est-il responsable personnellement de ce qui lui arrive? Et si oui, que doit-il faire pour éviter que cela se reproduise? Jean-Pierre Dupuis, vous êtes sans doute un des spécialistes des catastrophes. Il n'y a qu'à rappeler le titre de deux de vos récents ouvrages pour en être convaincu. Le catastrophisme éclairé, paru il y a une dizaine d'années, et plus récemment, en 2005, Petite métaphysique des tsunamis. Comment interprétez-vous les événements qui viennent de se dérouler? Ont-ils le caractère d'un mal physique absolu, selon vous, ou y voyez-vous largement impliqué les intentions et actions humaines?
Je suis très ému par tout ce qui se passe, pour des raisons intellectuelles, effectivement, puisque je travaille sur la question des catastrophes depuis maintenant 10 ans. On distingue traditionnellement les catastrophes naturelles, les catastrophes morales, la guerre, le terrorisme, la torture, à grande échelle, le totalitarisme, et les catastrophes industrielles et technologiques. Et je crois avoir parcouru tout cet itinéraire. Il faut y rajouter aussi, et je crois que nous allons en parler à propos de ce qui se passe aujourd'hui au Japon et dans le monde, des catastrophes économiques et financières. Ce qui me frappe dans, pour répondre à votre question, ce qui me frappe dans les événements du Japon, c'est que tous ces types de catastrophes, que les analystes des catastrophes distinguent en général soigneusement, se trouvent profondément intriqués. Comme s'il ne faisait qu'un. Et c'est d'ailleurs une thèse que j'ai essayé de développer tout au long de mes ouvrages, que cette distinction valent de moins en moins. La distinction entre le moral et le physique, ou le naturel, entre l'industriel et le financier, etc. Tout se mêle. Et les événements du Japon aujourd'hui mêlent tout cela. Nous allons en parler. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Effectivement, il faut d'abord, je crois, que nous pensions au peuple japonais, dont la conduite dans ces événements est admirable, de dignité. Et cette dignité, je dois dire, contraste fortement avec ce qu'est le débat franco-français sur ce même sujet, où l'on se crêpe le chignon pour des problèmes franco-français, en oubliant les souffrances du peuple japonais. Bon, ça, c'est...
Alors, revenons sur la question des catastrophes. Vous avez dit que les quatre aspects, les quatre types de catastrophes sur lesquels vous avez abondamment travaillé, en effet, au cours des dernières années, catastrophe physique, catastrophe morale, catastrophe industrielle et technologique, éventuellement catastrophe économique et financière, se trouvaient réunis. Pour la catastrophe naturelle, il n'y a aucun doute. C'est un événement inattendu de la nature qui s'est produit avec des conséquences extrêmes. La catastrophe industrielle et technologique, elle est déjà en cours, elle s'est déjà développée de manière spectaculaire, le pire peut-être est à venir, et nous le redoutons tous. La catastrophe économique et financière, nous en voyons les nombreux signes avant-coureurs, la bourse de Tokyo s'est effondrée. Quelle place tient dans tout cela ce que vous avez appelé la catastrophe morale, c'est-à-dire ce qui résulte directement des intentions et des actions de l'homme et de ses intentions mauvaises ou de ses actions déplorables, délétères.
Pensons aux deux récentes, je vais faire un petit détour, pensons aux deux récentes grandes catastrophes naturelles que nous avons connues, que le monde a connues ces 10 dernières années. Katrina et le tsunami asiatique de Noël 2004. Si, en réponse à votre question, on regardait ce qu'a dit la presse au sujet de ces deux catastrophes, en particulier la presse américaine pour ce qui est de Katrina, le New York Times, le lendemain de Katrina, titrait « A man-made disaster », une catastrophe due à l'homme. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'un tsunami, c'est évidemment une catastrophe naturelle. Ben non, justement, on a dit de Katrina que c'était une catastrophe due à l'homme, et on a dit du tsunami asiatique que les hommes étaient responsables de ce qui se passait. Selon quels arguments? Dans le cas de Katrina, eh bien les hommes... D'abord, qui avait eu l'idée de construire la Nouvelle-Orléans dans un endroit aussi fragile et aussi exposé? Bon, il fallait être fou, c'était les Français d'ailleurs. Comment se fait-il que les jetées n'étaient pas entretenues depuis déjà des dizaines d'années? Comment se fait-il que les gardes nationaux de Louisiane, qui auraient pu faire le travail de protection de la population et du sauvetage des malheureux survivants, comment se fait-il qu'ils étaient en Irak? Tout ça, c'est la faute des hommes. Pour ce qui est du tsunami asiatique de Noël 2004, qu'a-t-on dit à propos de la Thaïlande en particulier? On a dit que si les récifs de corail et les mangroves côtières, c'est-à-dire la végétation tropicale qui est sur les côtes, n'avaient pas été détruits par l'urbanisme, le tourisme, l'aquaculture et le réchauffement climatique, eh bien, on avait là des protections naturelles qui permettaient, comment dirais-je, de diminuer le heurte de la vague géante sur les côtes et sur les populations. Voilà comment on peut conclure, en réponse à votre question, que même dans le cas de catastrophes apparemment naturelles, l'homme en est responsable.
Alors pardonnez-moi d'insister sur ce point. Dans les deux cas que vous venez citer, qu'a fait l'homme? Qu'a-t-il fait de mal? Il a pris des risques inconsidérés. Il a mal calculé le rapport entre coûts et bénéfices. Les risques étaient peut-être irresponsables. Il a détruit des protections naturelles, mais il les a détruites parce qu'il pensait qu'elles étaient inutiles. Il ne les a pas détruites afin de mal faire. Là encore, il s'agit beaucoup plus d'inconscience, de négligence, de faiblesse du raisonnement. Ou bien alors, il a supprimé des protections qui étaient installées et il a manqué d'en construire de nouvelles. Dans tous ces cas, le mal est du côté de la légèreté de pensée, de l'absence de prévision, de la conséquence. S'agit-il d'un mal qui est de même nature que le mal dont vous avez fait tout à l'heure l'exemple de la catastrophe morale, à savoir la volonté de mal faire qu'on voit se manifester de manière spectaculaire dans le génocide, dans le nettoyage ethnique, dans l'usage systématique de la torture?
Tout à fait. Et là, vous soulignez un point philosophique extrêmement important, c'est que nous vivons peut-être un nouveau régime du mal où nous devons considérer contre une ancienne tradition qui est certainement d'origine chrétienne, augustinienne, que le mal résulte de mauvaises intentions. Et ce que nous observons de plus en plus d'ailleurs, et le XXe siècle a sans doute été un tournant, enfin, plutôt l'accélération, un point d'inflexion de quelque chose qui était déjà en train, c'est que le mal, ce que nous avons envie d'appeler le mal, est de plus en plus dégagé des intentions des hommes. Comme s'ils prenaient son autonomie par rapport à précisément leurs petites intentions. Vous savez qui est responsable de cela? Eh bien, c'est Jean-Jacques Rousseau, tout simplement, en réaction à une des grandes premières catastrophes naturelles, qui est le tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755. Bon, mais au XXe siècle, je pense que les grands penseurs des catastrophes morales ont eux-mêmes été amenés à considérer que le mal prenait son autonomie par rapport aux intentions de ceux qu'il commettait.
Alors, la négligence, l'inconséquence, l'irresponsabilité, pour peu qu'elle soit prise dans un système assez complexe, avec un inévitable effet d'amplification et de mise en résonance d'actions inconsidérées, inconséquentes et négligentes, peut devenir une force de mal, une force atrocement destructive et qui, d'une certaine façon, au niveau métaphysique et peut-être moral, peut se juger de façon assez comparable à ceux des actes mauvais intentionnellement commis. Ça, c'est une conclusion philosophique, en effet, d'une grande portée et qui nous fait sans doute mettre de côté avant de poursuivre l'analyse. Alors, vous avez évoqué les événements qui se sont produits dans la ville de Lisbonne, le 1er novembre 1755. 55, ils sont en effet en arrière-fond de tout ce qui nous permet de comprendre et d'analyser la signification de ces catastrophes récentes et en particulier de celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Le 1er novembre 1755, la ville de Lisbonne fut dévastée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Cette catastrophe naturelle suscita de très nombreuses discussions parmi les philosophes et elle a contribué à la ruine d'un des plus puissants systèmes philosophiques d'explication du mal humain qui avait été mis en place, à savoir la compréhension de la théodicée. Alors il y a là un enjeu majeur pour une émission consacrée à réfléchir à la morale et le lien paraîtra bientôt évident avec les événements qui se déroulent au Japon. Comment les philosophes, comment ceux qui ont essayé de comprendre cette terrible catastrophe du 1er novembre 1755 ont-ils cherché à la rendre intelligible, Jean-Pierre Dupuy ?
Pour simplifier, car c'est un sujet infiniment complexe, on peut distinguer trois types de réponses. La réponse ancienne qui prévalait avant le 1er novembre 1755 et qui était la réponse en termes de théodicée, justement. Alors, un petit mot sur... quelques mots sur le mot théodicée, qui signifie littéralement le jugement de Dieu. Mais attention, ce n'est pas Dieu qui juge ici.
Terme
c'est
forgé
Dieu.
Par Leibniz, qui le publie en 1710.
La théodicée, c'est 1710.
Les essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal.
Voilà. Donc, justice, jugement de Dieu, pardon, mais le 2 est en phibologique. Ce n'est pas Dieu qui juge, c'est Dieu qui est jugé. Et pourquoi est-il jugé ? Ben parce qu'apparemment, il a laissé du mal sur la terre. Et comment est-ce qu'un créateur omnipotent, qui en principe nous est bienveillant, peut-il avoir laissé du mal sur la terre ? Bon, c'est ça la question. Plusieurs penseurs, bien avant Leibniz, se sont posé la question du problème du mal. Bon, la réponse traditionnelle avant Leibniz, c'est celle de Saint-Augustin. Bon, et qui consiste à dire, elle est très connue, elle consiste à dire « Dieu nous a fait à son image, donc il nous a fait libres, et en particulier libres de lui désobéir, libres de commettre le mal. » Et voilà pourquoi Dieu n'a pas pu, voulant que nous soyons libres, n'a pas pu empêcher que nous, les hommes, fissions le mal sur la terre. Bon, cette réponse augustinienne a été très critiquée, en particulier par quelqu'un dont il faut dire le nom, Pierre Bayle, à la fin du XVIIe siècle, dans son énorme dictionnaire historique et critique, dans lequel Pierre Bayle pose le problème dans les termes suivants. Il y a trois axiomes. Il y a du mal dans le monde, Dieu est omnipotent, troisièmement, Dieu est bienveillant. Ben, ces trois axiomes ne vont pas ensemble. Bien sûr, il faut en sacrifier au moins un. Et on peut les sacrifier les uns après les autres, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Ça peut donner des conclusions horribles. Dieu n'est pas omnipotent. Ça veut dire qu'il y a une autre puissance face à lui, qui est la puissance du mal, et on obtient des doctrines dites manichéennes où le bien et le mal s'opposent. Bon. Dieu n'est pas bienveillant, ça c'est l'horreur absolue, parce que si Dieu est omnipotent et qu'il ne nous aime pas, nous pouvons nous attendre au pire. On ne peut pas nier par ailleurs que le mal existe. Bon, c'est évident. Donc ça ne marche pas. On a une contradiction. Et la réponse de Pierre Bayle, qui fut d'abord calviniste, qui fut d'abord protestant, était de l'Ariège, converti au catholicisme et revenu au protestantisme et au calvinisme, la réponse de Pierre Bayle, c'est que eh bien, il faut mettre la raison de côté et s'en sortir avec la foi, tout simplement. Voltaire, après Lisbonne, fera référence à Pierre Bayle, justement. Et je crois que Voltaire...
Pardonnez, avant d'en venir à Voltaire, pouvez-vous en deux mots nous rappeler la solution de Leibniz à ce
Alors, la solution de Leibniz est extraordinairement intelligente. C'était un mathématicien, au moins autant qu'un philosophe. Elle consiste à dire, la solution de Leibniz consiste à dire, eh bien, c'est le premier axiome qu'il faut supprimer. Ou plutôt, c'est le premier axiome dont il faut dire qu'il est faux. Donc, ça n'est pas un axiome. À savoir, il y a du mal dans le monde. Comment peut-on nier qu'il y ait du mal dans le monde? Eh bien, en disant, comme Leibniz, que ce qui nous semble être le mal, par exemple, quelqu'un perd son fils unique, c'est l'horreur, c'est le mal. Mais ce qui nous semble être le mal, si nous pouvions nous placer dans la position de Dieu, la position de la monade des monades, comme dit Leibniz, dans la monadologie, 4 ans plus tard que la publication de la Théodicée, eh bien, nous comprendrions que ce mal, en fait, n'est qu'un mal apparent, car c'est une condition nécessaire pour la maximisation du bien dans le monde. Donc, finalement, ce mal apparent, ce mal n'est qu'apparent, et c'est en quelque sorte un sacrifice pour la maximisation du bien. Et la réponse de Leibniz, je vais la dire dans les termes qui sont plus familier à beaucoup de monde, à savoir que Dieu avait dans son entendement tous les mondes possibles et il a choisi le meilleur. Mais il se trouve que dans le meilleur des mondes possibles, il y a ce mal apparent. Bon, donc si jamais nous souhaitions un monde où il y ait moins de mal, finalement, on s'éloignerait de la maximisation du bien. Donc on y perdrait.
La thèse de Leibniz illustre ce que l'on a appelé le rationalisme moderne, puisqu'il s'agit bien de cela, de considérer que le monde est une donnée, en quelque sorte, où le bien est maximisé, c'est-à-dire le mal est réduit de telle façon que le bien soit maximisé, et cela va de pair avec la thèse selon laquelle il n'y a pas d'autre monde possible que celui que nous avons devant les yeux.
Mais vous imaginez que cette réponse de Leibniz est horrible. Vous dites à quelqu'un qui a perdu son fils unique, tu ne comprends pas pourquoi la mort de ton fils contribue, et tu ne le sauras jamais, contribue à la maximisation du bien général. Vous lui dites cela. Vous croyez qu'il va vous remercier? Bien sûr que non. La solution de Leibniz est monstrueuse. Et d'ailleurs, elle a été considérée comme monstrueuse par la plupart des penseurs qui ont suivi. Et surtout, après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755.
Entre Leibniz et le tremblement de terre de Lisbonne, il y a eu la publication en 1734, donc une vingtaine d'années avant la survenue du tremblement de terre, de l'essai d'Alexander Pope, Essay on Man. Et c'est cette publication, en fait, avec sa formule extrêmement célèbre, « Whatever is right » et « All partial evil, universal good », »,« Tout mal partial est le bien universel », ce sont ces deux formules et la version que Pope a donnée, d'une certaine manière, de la conception leibnizienne qui a provoqué la polémique qui a suivi le tremblement de terre de Lisbonne, Jean-Pierre Dupuis.
Tout à fait. Le tremblement de terre de Lisbonne a lieu, donc, nous le disions, le 1er novembre, le jour de la Toussaint 1755. La première réaction, grande réaction, il y a une réaction de Kant d'ailleurs, mais la première grande réaction est celle en France, de Voltaire. Dans son poème sur le désastre de Lisbonne, c'est le titre, mais le sous-titre c'est examen de cet axiome, tout est bien. Voltaire se réfère effectivement, comme vous le disiez très bien, à ce poème d'Alexander Pope, Essai sur l'homme. Mais si Pope a écrit « Whatever is right » et que Voltaire traduit par cet axiome « tout est bien », Voltaire commet un sacré contresens. Pourquoi ? « Right » en anglais ne veut pas dire « bien ». Ça veut dire ce qui doit être. « The right man in the right place », c'est l'homme qu'il faut dans la place qu'il faut. En fait, ce que signifie whatever is right, ça veut dire le monde est comme il doit être et en quelque sorte, le monde maximise tant qu'il peut ce qui est bien, mais maximiser le bien, ça veut pas dire avoir un bon résultat. Un enfant qui est mauvais en mathématiques à l'école, le professeur lui dit, mais vraiment, tes résultats sont pas bons, hein. Et le gosse répond, j'ai fait de mon mieux. Donc le maximum du bien, ça ne veut pas dire que c'est bien, n'est-ce pas? Et Voltaire se trompe ici.
Attendez, le mot « c'est bien » peut avoir ce sens. Non. Peut vouloir dire « ça convient », c'est ce qu'il faut.
Justement.
Sans que cela entraîne un jugement sur la bonté intrinsèque.
Non, je répète, la solution leibnizienne que reprend Pope, apparemment, c'est la maximisation du bien. Mais un bien maximum, ça ne veut pas dire que c'est un grand bien. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et là, Voltaire se trompe. Mais ce que Voltaire...
l'essentiel du poème de Voltaire, bon, ne tient pas à la traduction de l'action
si,
de Poe.
Si, je crois que ça joue énormément.
En tout cas,
que ça joue énormément sur son Candide en particulier, 1762.
Il importe avant toute chose de remarquer que ce poème de Voltaire insiste sur le caractère extrêmement tentateur philosophiquement et contre lesquels il faut lutter de l'optimisme de la Providence. C'est une manière de pulvériser en quelque sorte les conceptions optimistes. En tout cas, c'est comme ça que ce poème sur les désastres de Lisbonne est interprété.
Il a été souvent entendu comme ça, c'est pas du tout comme ça que je l'entends. Je l'entends d'une autre manière, et pour moi Voltaire est une sorte de penseur non pas pré-moderne au sens de pré-rousseauiste, on va parler de Rousseau dans un instant, mais au sens de presque post-moderne. C'est-à-dire que, en se référant à Bayle, mais aussi un peu à Pope, ce que Voltaire nous dit, c'est deux choses. D'une part, il se peut effectivement que la doctrine dite optimiste soit la bonne doctrine, la doctrine labyrinthienne. Simplement, nous ne savons pas ce qu'il en est, nous ne connaissons pas l'enchaînement des causes et des effets. Et c'est cette humilité, en quelque sorte, cette ignorance que nous avons, qui nous permet d'éprouver de la compassion. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire deux ou quatre lignes du poème de Voltaire. Je ne conçois pas comment tout serait bien. Je suis comme un docteur. Hélas, je ne sais rien. Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue ? Rien, le livre du sort se ferme à notre vue. Ce que Voltaire retient de ses prédécesseurs, c'est que peut-être la doctrine optimiste, c'est-à-dire celle de Leibniz, est juste, mais nous ne connaîtrons jamais l'enchaînement des causes et des effets. Et c'est cette humilité devant notre manque de connaissances qui fait, et c'est ça le prix pour Voltaire de cette humilité, qui fait que nous pouvons éprouver de la compassion. Je vous lis les quatre vers qui suivent. « Tranquille spectateur, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages, mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups devenus plus humains, vous pleurez comme nous. » Donc je pense que Voltaire ici marque un point. Pour éprouver de la compassion, nous devons d'abord être humbles devant les mécanismes du monde, et physique et moral. Alors celui qui va l'emporter dans tout ce débat, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui répond à Voltaire quelques mois plus tard, en août 1756, dans une lettre à M. de Voltaire, et où Jean-Jacques Rousseau dit ceci. 1. Dieu, effectivement, n'a strictement rien à voir à l'affaire. L'affaire, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Mais 2. Les hommes ont tout à voir à l'affaire, y compris dans le mal physique. Bon, les hommes sont évidemment responsables du mal moral, mais ils sont également, et c'est ce que nous disions tout à l'heure à propos du tsunami de Noël 2004, les hommes sont responsables du mal physique également, parce que, et c'est tous les arguments, n'est-ce pas, bien connus.
Alors, arrêtons-nous un instant, vous écoutez Question d'éthique, nous parlons du mal moral, du mal physique et de la leçon des catastrophes avec Jean-Pierre Dupuis, et tout cela sur France Culture. Lettre sur la Providence, Jean-Jacques Rousseau, 18 août 1756. La juste défense de moi-même m'oblige seulement à vous faire observer qu'en peignant les misères humaines, mon but était excusable et même louable à ce que je crois, car je montrais aux hommes comme ils faisaient leur malheur eux-mêmes et par conséquent, comme ils pouvaient les éviter. Je ne vois pas que l'on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l'homme libre, perfectionné, partant corrompu. Et quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l'homme fait partie. Et alors la question n'est point pourquoi l'homme n'est pas parfaitement heureux, mais pourquoi il existe. De plus, je crois avoir montré qu'excepté la mort qui n'est presque un mal que par les préparatifs dont on l'a fait précéder, La plupart des mots physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, monsieur de Voltaire, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Tous eussent fui au premier ébranlement, et on les eût vus le lendemain, à 20 lieues de là, tout aussi gais que s'il n'était rien arrivé. Mais il faut rester, s'opiniâtrer autour des masures, s'exposer à de nouvelles secousses, parce que ce qu'on laisse vaut mieux que ce qu'on peut emporter. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent? Ne sait-on pas que la personne de chaque homme est devenue la moindre partie de lui-même et que ce n'est pas la peine de la sauver quand on a perdu tout le reste?
C'est drôle parce que moi je n'ai pas tout à fait le même texte. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent? Moi j'ai combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour pouvoir prendre l'un sa carte de crédit, l'autre son téléphone portable et l'autre son costume Armani. Bon, excusez-moi, c'est une transposition, mais cela, on peut exactement le dire de ce qui s'est passé en Thaïlande en décembre 2004. C'est exactement la même chose. Donc, justement, ce passage extraordinaire, n'est-ce pas, de la réponse de Rousseau à Voltaire, c'est lui, c'est ce passage qui, pour moi, nous montre que Rousseau a gagné dans tout ça. D'ailleurs, il y a une autre citation à faire, c'est 7 ans plus tard, dans les 1762, Rousseau tire la leçon de ce qu'il a dit à Voltaire. Cette citation est extraordinaire, de l'Émile. « Homme, ne cherche plus l'auteur du mal. Cet auteur, c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres. Et l'un et l'autre te vient de toi. » Jean Kelevitch, commentant ce passage, parle de anthropodicée à la place de la théodicée. Ce qui est accusé maintenant, c'est l'homme. C'est ce que nous disions au début de cette émission, n'est-ce pas?
Mais alors, dans les 3 axiomes que rappelait Bell dans son dictionnaire, au fond, Rousseau a renoncé à la toute-puissance de Dieu. Il a gardé la bienveillance, mais c'est une bienveillance assortie d'indifférence. L'homme ne s'occupe pas de Dieu.
Mais Rousseau...
Le mal existe, c'est l'homme qui en est le responsable. Et que reste-t-il de la toute-puissance de Dieu?
Ce que fait Rousseau, c'est de faire tout simplement ce que Laplace fait en réponse à la question de Napoléon. Napoléon demandant à Laplace, mais que faites-vous dans votre système mathématique, monsieur de Laplace, de Dieu? Laplace répond, sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Rousseau n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. C'est les hommes entre eux. C'est les hommes entre eux. Alors, je crois que Rousseau a gagné. Mais c'est très grave qu'il ait gagné. Parce que si l'homme est responsable de tout, alors, et nous venons à la question du Japon peut-être. Si l'homme est responsable de tout, sa responsabilité est énorme et il est clair qu'il ne peut l'assumer. Regardez le débat, je vous proposais que nous n'en parlions pas, mais le débat franco-français sur le nucléaire civil, quand l'homme produit de l'énergie nucléaire civile, il commet un péché. Bon, c'est une puissance qu'il dépasse et qu'il est impossible de contrôler absolument. L'exemple du Japon semble donner raison aux antinucléaires en question, puisque ce sont des contingences complètement extérieures qui ont produit les conséquences que nous observons actuellement. C'était pas le cas de Tchernobyl. À Tchernobyl, il n'y a eu que les hommes entre eux. C'était une expérience complètement folle d'ailleurs sur la centrale de Tchernobyl, qui s'appelait en fait la centrale Lénine. Tchernobyl, c'est le petit village à côté, qui a mal tourné dans la nuit du 26 avril 1986, nous allons commémorer le 25e anniversaire de la catastrophe dans un mois. Donc c'est une expérience complètement folle qui a mal tourné. Les hommes étaient entre eux. Dans le cas japonais actuel, c'est très intéressant, car ce qui rend compte du fait qu'il y a cette catastrophe nucléaire qui se prépare, c'est quand même une conjonction de phénomènes purement naturels. Peu probable a priori, disons. C'est-à-dire un tremblement de terre d'une force inouïe, pratiquement 9 de magnitude, suivi, bon, ça c'est pratiquement automatique dans les eaux du Pacifique, d'un tsunami terrible. Disons peut-être 2 mots de l'enchaînement des faits quand même, peut-être, pour le rappeler à nos auditeurs. Le tremblement de terre a eu lieu donc vendredi 11 mars. Aussitôt, tout a bien marché, les centrales, les réacteurs nucléaires de la centrale dont nous parlons, se sont arrêtés et les circuits de refroidissement se sont mis en marche automatiquement. Le problème, c'est qu'une centrale nucléaire, elle produit de l'électricité, mais elle consomme aussi beaucoup d'électricité. Et les circuits de refroidissement en particulier, ils consomment de l'électricité. Or, l'électricité a été très rapidement coupée à cause du choc, du traumatisme, du tremblement de terre. Bon. Mais il y avait des générateurs qui étaient disponibles et qu'on a mis en marche. Un quart d'heure plus tard, le tsunami arrivait et fichait tout cela en l'air. Donc, les centrales étaient arrêtées, ce qui est d'ailleurs la très bonne nouvelle. Ça veut dire que le risque qu'il y ait une réaction en chaîne, comme dans une bombe atomique, est quasiment nul. Mais le problème, c'est que le tsunami, après le tremblement de terre, a fait que le seul remède, véritablement, pour éviter une catastrophe très grave, le refroidissement, ne fonctionnait pas. Et alors, ce qu'on a actuellement, c'est effectivement un échauffement et une augmentation de la pression au cœur des réacteurs et à l'intérieur des enceintes de confinement, qu'on ne peut régler que de deux manières, ce problème, ce double problème, qu'en laissant s'échapper de temps en temps la vapeur d'eau chargée de radioactivité, et ça c'est très grave pour toutes les populations environnantes, et deuxièmement, en essayant d'injecter de l'eau de mer tant qu'on peut à l'intérieur des enceintes. Bon, donc nous voyons qu'ici, ce sont bien les hommes, mais avec une conjonction d'événements complètement exogènes. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'articulation très étroite entre le naturel et l'industriel ici. On n'est pas encore dans le moral.
Mais là, il n'y a eu de la part des Japonais, mis à part le fait qu'ils ont souhaité construire des centrales nucléaires au bord de la mer, n'ignorant pas le risque de tremblement de terre ou de tsunami, il n'y a rien eu du type de ce que l'on trouve, par exemple, à l'origine de l'accident nucléaire de Tchernobyl, du réacteur Lénine, ni de l'extrême imprudence qui a présidé à l'aménagement de la ville de la Nouvelle-Orléans. Là, ce que nous appelions tout à l'heure l'inconséquence, la négligence, l'irresponsabilité, est aussi réduite que possible. Il y a des forces naturelles qui ont déclenché une série de conséquences catastrophiques et de pauvres actions humaines qui, séquence après séquence, tentent de trouver un moyen pour limiter les effets désastreux de ces événements naturels. Peut-on dire que là, dans le cas qui nous occupe, dans cette tragédie que nous voyons se dérouler devant nous, il y a présence d'un mal moral, au sens où vous l'avez désigné au début de cette émission, Jean-Pierre Dupuis,
oui.
C'est-à-dire un mal qui soit a trait aux actions et intentions humaines, orientées vers le mal, soit qui a trait à une sorte d'organisation impersonnelle d'une série d'inconséquences, d'irresponsabilités qui font système et écrasent l'individu humain sous les conséquences dramatiques qu'elles entraînent.
Qu'est-ce que les antinucléaires vous répondraient ? Ils vous répondraient que, étant donné la configuration du Japon, sa topologie, sa topographie, le fait que c'est un archipel, le fait qu'au centre des îles, il y a des montagnes très hautes, et que, par ailleurs, techniquement, une centrale nucléaire doit être proche d'une source de refroidissement, donc ça ne peut être que la mer ou une rivière. Eh bien, les centrales, dès lors que le Japon décidait de développer l'industrie nucléaire, il ne pouvait installer ses centrales qu'au bord de la mer, n'est-ce pas ? Bon, alors la conclusion d'un antinucléaire, c'est de dire, mais jamais, jamais le Japon n'aurait dû développer l'industrie nucléaire civile. C'était ça la folie de départ. Je ne dis pas que c'est ma réponse, je dis que la réponse des antinucléaires à votre question, c'est que, précisément, sachant tout cela, le mal de départ, c'est d'avoir tout simplement, pour le Japon, de développer l'industrie
nucléaire civile. Alors, insistons, les Japonais étaient conscients de ce risque et ils ont multiplié les précautions intégrées dans les processus de construction eux-mêmes pour, croyaient-ils, les limiter, sinon les voir disparaître. Donc il y a eu une mauvaise appréciation, sans doute, de la capacité humaine à prendre des précautions et de la violence, la capacité de la nature à se jouer de ces précautions et à les réduire en débris.
Mais c'est pourquoi il faut faire... Bon, il y a trois termes et non pas deux. Il y a les catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, etc., les cyclones. Il y a les catastrophes morales, Auschwitz, Hiroshima. Il va falloir que nous parlions de Hiroshima, je pense. Mais il y a les catastrophes industrielles et techniques. Alors, comparons les catastrophes industrielles et techniques ou technologiques, et les catastrophes morales. Quelle est la différence ? Dans les deux cas, il est évident que l'homme est responsable. Mais la grande différence, elle est évidente, c'est que dans le cas des catastrophes morales, Auschwitz, Hiroshima, les hommes veulent faire le mal. Dans le cas des catastrophes industrielles et technologiques, ils veulent faire le bien et ils produisent le mal malgré eux. D'ailleurs, si je peux parler un tout petit peu de moi, c'est la source de mon problème, si je peux dire, avec les antinucléaires, français en particulier, bien sûr. C'est que les antinucléaires voudraient, pour mener leur combat à bien, dépeindre les nucléocrates, comme on les appelle parfois, lorsqu'on ne leur veut pas du bien, bien sûr, les dépeindre comme des êtres vils, amoraux, etc. Moi, je crois qu'ils diminuent la force de leur critique en présentant leurs ennemis comme des êtres mauvais. Il est beaucoup plus, je crois, grave que ce soit des gens compétents et qui veulent le bien qui produisent le mal. Car lorsque vous les rendez responsables, ils ne comprennent même pas ce que vous dites. Et je peux vous assurer, je les connais, je crois, assez bien, les responsables de l'industrie nucléaire française sont des gens compétents, honnêtes. Et s'ils produisent le mal, c'est très difficile de dialoguer avec eux. Alors évidemment, on peut vouloir les détruire comme les antinucléaires, mais si on veut dialoguer avec eux, ils ne comprennent pas, car ils ont de bonnes intentions.
Oui, mais que faire? On ne peut pas souhaiter que ce soit des incompétents qui ne souhaitent que le mal.
Non, mais certainement.
De ce genre de choses. Alors, quelle est la solution équilibrée?
Mais il n'y a pas de solution. Pour l'instant, nous décrivons...
Donc il faut renoncer à faire cela.
Non. Pour l'instant, nous décrivons philosophiquement des types de catastrophes et des types de mots, M-A-U-X. Hein. Je crois qu'il faut donc distinguer, effectivement. Il faut distinguer pour ensuite les réunir. Catastrophe naturelle, nous en avons beaucoup parlé. Catastrophe industrielle et technologique, nous en parlons. Et catastrophe morale, nous n'en avons pas encore vraiment parlé. Or, je crois qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement au Japon sans parler d'Hiroshima.
Vous écoutez France Culture, c'est question d'éthique. Nous parlons du mal physique et du mal moral, de la leçon des catastrophes avec Jean-Pierre Dupuis et ses questions d'éthique. Vous auriez voulu, et qui ne l'eût pas voulu, que le tremblement se fût fait au fond d'un désert plutôt qu'à Lisbonne? Peut-on douter qu'il ne s'en forme aussi dans les déserts, des tremblements de terre? Mais nous n'en parlons point, parce qu'ils ne font aucun mal aux messieurs des villes, les seuls hommes dont nous nous tenons compte. Mais que signifierait un pareil privilège? Serait-ce à dire que l'ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelques lieux, nous n'avons qu'à bâtir une ville? Rousseau, Lettre sur la Providence, lettre à M. de Voltaire, 1756.
Il faut que nous sortions de Rousseau, car le rousseauisme, d'ailleurs Kant l'a bien compris, c'est un Rousseau qui est totalement artificialiste. Hein. Bon, on présente Rousseau en général, l'homme naturel est bon, etc., etc. Mais l'état de nature pour Rousseau, c'est un état qui n'a jamais existé, mais qu'on peut faire exister par des moyens artificiels. Bon. Et Rousseau, c'est une sorte d'ingénieur social. Qui veut construire la bonne société par des moyens artificiels, par le contrat social. Bon. Mais ce qui veut dire que Rousseau rend, nous répétons ce que nous avons dit, rend l'homme responsable de tout. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'au XXe siècle, plutôt, je devrais dire, dans la seconde partie, la seconde moitié du XXe siècle, quelque chose d'exactement opposé à Rousseau s'est produit dans la manière de répondre au problème du mal dont nous parlons dans cette émission. C'est le contraire parce que cette manière de répondre au problème du mal, mais d'un mal extrême, d'un mal moral extrême, ça a été de naturaliser le mal. Et là, je crois que les deux grands penseurs, enfin ceux qui m'ont fortement inspiré, formèrent un couple, mais ça c'est un détail, c'est Hannah Arendt et Günther Anders, deux philosophes allemands, juifs, ce détail a l'importance, qui furent l'un et l'autre élèves de Heidegger pour se dégager plus ou moins de son influence. L'un et l'autre ont défendu la thèse suivante. Lorsque le mal moral dépasse certains seuils de gravité dans l'horreur, les catégories morales dont nous disposons pour juger nos actions ordinaires n'ont plus cours. Nous ne pouvons plus juger nos actes. Tout se passe comme si le mal s'autonomisait par rapport aux intentions de ceux qui le commettent.
Mais bon, en quoi s'autonomise-t-il ? Ça veut dire qu'il n'est plus possible de le rapporter de manière vraisemblable à une intention humaine, qu'aucune intention humaine ne peut vouloir tant de mal. Donc le mal fait en quelque sorte effet de système. Il est trop disproportionné, trop systématique, trop organisé pour pouvoir encore avoir le moindre sens qu'il le rapporte à une volonté, une intention, une passion humaine. Bon. Il s'organise comme un système indépendamment de l'homme.
Tout à fait.
C'est ça que ça veut dire.
Mais dans mes travaux, j'ai appelé ce type de mal le mal systémique, justement. Bon, l'exemple de Arendt, nous n'allons pas vraiment en parler parce que ça nous mènerait trop loin et c'est pas notre sujet là. Mais c'est l'exemple, c'est Eichmann, la manière dont elle voit Eichmann comme quelqu'un doté d'un petit défaut qui est, il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Il avait des intentions absolument médiocres. Il voulait faire plaisir à son patron. Bon, son patron qui s'appelait Goebbels, certes, mais et il a produit un mal immense. Donc c'est cet écart entre des intentions médiocres et des conséquences en termes de mal énormes qui est absolument choquant. Pour ce qui est de Günther Anders, ça nous ramène au Japon. Günther Anders, il est allé en 1958 à Hiroshima et Nagasaki. Et il a interviewé les survivants, les irradiés. Et il a écrit un journal dont j'ai publié et édité la traduction française récemment, dans un livre qui s'appelle « Hiroshima est partout ». Il interviewe les rescapés et il écrit « Je ne comprends pas ». Il n'y a pas le moindre ressentiment chez ces gens. C'est comme si ce qui leur était tombé sur la tête venait de quelque chose de radicalement non humain. Et d'ailleurs, le mot que ces gens utilisent pour désigner ce qui leur est arrivé est un mot japonais, vous l'avez deviné, c'est tsunami. Alors, quand on pense par ailleurs que le mot Shoah que les Juifs européens utilisent à la place de Holocauste, Holocauste qui posait un problème, puisque l'Holocauste est un rituel sacrificiel. Quel Dieu voulait cela, n'est-ce pas ? Le mot Shoah, comme Henri Méchonnic l'a bien montré, ne signifie qu'une chose, catastrophe naturelle, et plus spécialement, raz-de-marée, etc. Donc cette naturalisation du mal, lorsque le mal dépasse certains seuils, est quelque chose de presque inévitable. En tout cas, c'était la thèse de Günther Anders, etc. Donc nous voyons ici que nous sommes exactement à l'opposé de Rousseau.
Mais que veut dire naturalisation du mal ? Ça veut dire que le mal devient une force de la nature ?
Non, alors, que le mal...
aussi aveugle et aussi imprévisible et aussi implacable.
Bien sûr, c'est une nature morale.
Et aussi peu soucieuse de pourquoi,
fond,
ou même d'explication, ou de comment, que quoi que ce soit
bien
qui
sûr.
Est de l'ordre naturel.
Cette nature est en fait une nature morale, bien évidemment. Mais c'est le propre de la nature, dans un des sens du mot nature, c'est son extériorité par rapport à nous. Et ce que Arendt et Anders désignent par cela, c'est que nous sommes capables de produire un mal qui nous transcende, en quelque sorte, qui est bien au-dessus de nous.
Mais ce mal-là, ce mal naturalisé, pour reprendre votre expression, Jean-Pierre Dupuis, c'est un mal dont il est impossible de demander des comptes, puisque nul ne demande des comptes à la nature, au fond, pour les catastrophes qu'elle produit. Dans la mesure où le lien à l'intention humaine, à la passion mauvaise, ne peut plus être restitué de manière plausible. Il n'y a plus de possibilité d'imputation d'intention, il n'y a plus de stratégie d'intentionnalité et donc plus, d'une certaine manière, plus de responsabilité humaine.
Ah, ça n'était la conclusion ni de Arendt ni d'Anders. Dans le cas d'Eichmann, Arendt pouvait à la fois dire que les intentions d'Eichmann étaient très médiocres, ridiculement médiocres, et que les conséquences de ses actes constitue un mal énorme, et dire que Eichmann méritait mille fois plutôt qu'une la peine de mort.
Mais il l'a mérité parce que la justice des hommes n'a pas d'autre réponse à apporter devant quelqu'un qui est d'une certaine manière lié à un mal aussi considérable que la mise à mort,
tout à fait.
C'est bien évident.
Tout à fait.
Mais d'une certaine manière, la justice est incapable de restituer la moindre reconstitution de la logique qui conduit à ce qu'un être aux
tout
intentions aussi médiocres puisse avoir des effets aussi considérables.
Mais
cela dépasse l'entendement.
Mais c'est exactement le point.
Donc la justice est quasi conventionnelle ici. Elle n'est pas véritablement ce
si
qui résulte d'un travail de l'imputation de responsabilité.
Si vous voulez. Mais revenons maintenant au cas du Japon et du nucléaire japonais. Je crois que lorsqu'un Japonais utilise le mot nucléaire, il pense avant tout, c'était le cas du Premier ministre dans ses diverses déclarations, on peut le montrer, quand il dit nucléaire, il pense à Hiroshima plus qu'à l'industrie nucléaire civile. Le traumatisme a été tel, et qui a fait des Japonais des victimes, de la seule fois où des humains ont lancé des bombes atomiques sur d'autres humains, et des civils. Ce traumatisme a été tel que quand un Japonais pense nucléaire, il pense Hiroshima avant de penser à ce qui se passe. Regardez l'ironie de ce qui se passe. Et c'est cette ironie que nous devrions essayer de penser. Donc selon Anders, Hiroshima a été vécu par les Japonais, enfin qui ont survécu bien sûr, comme un tsunami. Et aujourd'hui, c'est un tsunami, un vrai tsunami, une onde vraie, véritablement matérielle, qui réveille le tigre nucléaire. C'est une ironie de l'histoire absolument extraordinaire. Alors certes, ce tigre nucléaire, ce n'est pas une bombe atomique, c'est une centrale nucléaire. Mais entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, le passage est assez facile à faire. Il est facile à faire d'abord dans l'imaginaire, et je pense même l'imaginaire technologique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire? Je vous rappelle d'abord que l'énergie nucléaire a d'abord été utilisée de manière militaire, Hiroshima-Nagasaki, 1945, avant d'être utilisée de manière civile. Les premières centrales nucléaires, électronucléaires, datent du début des années 50, 52 aux États-Unis, 54 en France. Bon. Mais le lien est le suivant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire? C'est un processus technique qui déclenche une réaction en chaîne qui, par nature, va diverger et ensuite la bride. Donc, c'est, si vous voulez, un tigre en cage. Mais évidemment, le tigre, il peut s'échapper de la cage. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, je répète, l'ironie de la chose est extraordinaire. C'est aujourd'hui un véritable tsunami qui réveille un tigre en cage, mais le tigre peut s'échapper. Et dans l'esprit des Japonais, en tout cas, le nucléaire, c'est avant tout Hiroshima, n'est-ce pas?
Alors, la question morale, si je puis dire, qu'on peut se poser, c'est qui a mis ce tigre dans la cage? Parce que pour qu'il ait une chance de s'échapper, il faut d'abord l'y avoir mis.
Mais oui.
Lorsque nous parlions de Rousseau, rappelle la responsabilité de l'homme, la responsabilité intégrale de l'homme en matière de mal moral et de mal physique, puisque c'est de la mort seule que l'homme n'est pas responsable, selon Rousseau.
Oui.
De tout le reste, on peut le restituer ou le rapporter de manière plus ou moins directe à ses actions. Cette analyse du mal et la reconstitution du lien étroit qui existe entre ce mal observé et les actions des hommes a évidemment pour conséquence que pour éviter ce mal, l'homme peut agir. C'est-à-dire qu'il est la cause de tous les désastres, mais il est aussi potentiellement la solution de tous les désastres. Donc on s'orienterait vers une sorte de politique, au fond, extrêmement volontariste, une sorte de volontarisme constructiviste. Même que l'homme, puisque l'homme est à l'origine de tout ce qui est mal, il peut faire en sorte que plus rien de mal n'existe. Mais à quel prix, Jean-Pierre Lepuy?
Exactement, la solution rousseauiste consiste à mettre l'homme à la place de Dieu, tout simplement. C'est un constructivisme radical. On présente Rousseau, je répète, comme une sorte de naturaliste, etc., un des précurseurs de l'écologie. C'est un contresens parfait. Rousseau est un artificialiste radical. L'homme est la cause du mal et l'homme peut être la cause de la solution au problème du mal. Bon, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous devons admettre, si vous voulez, pour moi, la solution, nous avons parlé peut-être un peu longuement tout à l'heure, mais je ne le regrette pas, de la solution voltairienne au désastre de Lisbonne, n'est-ce pas? La solution voltairienne, c'est la sagesse d'une certaine manière, car elle consiste à reconnaître et à accepter la contingence des affaires humaines. Bon, alors certes, ça n'est pas une solution peut-être très glorieuse, mais au moins, c'est la seule solution, nous apprenait Voltaire, qui préserve la possibilité de la compassion.
Or, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que nous n'avons que... Mais qu'est-ce que ça signifie, accepter la contingence des affaires humaines?
C'est la reconnaître d'abord.
Ça veut dire accepter l'idée que l'homme n'est pas responsable de tout. Ça veut dire accepter l'idée qu'il y a des phénomènes qui sont causalement indépendants des actions humaines, qui soient d'une autre origine, ou bien qui, même s'ils ont un lien avec les actions humaines, font un effet de système tel qu'ils accèdent à une incontestable extériorité par rapport à ces actions humaines. Au fond, ce qu'on appelle la contingence, c'est l'incapacité de l'homme à comprendre quel lien existe entre ce qu'il observe dans certains cas et ce qu'il fait. Tandis que Rousseau le somme de toujours trouver un lien et de se voir, au fond, à l'origine de tout ce qui se passe.
Exactement. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure à propos de Voltaire. Voltaire ne nie pas qu'il puisse y avoir des liens de cause à effet entre les actions des hommes et les conséquences, mais nous ne connaissons pas ces enchaînements. Donc c'est bien l'ignorance ou la méconnaissance qui fait que beaucoup d'événements qui se passent dans nos vies, nous les considérons comme dus au hasard ou à la contingence. Le hasard et la contingence, ici, sont les effets du manque de connaissances. Mais ce manque de connaissances est sans doute irrémédiable. Et c'est peut-être notre salut. Si nous savions tous les enchaînements, même en admettant la thèse lamnitienne, la thèse de la théodicée, même si nous connaissions tous les enchaînements qui font qu'un mal apparent, en fait, contribue à la maximisation du bien, ben notre vie serait impossible. Elle serait tout simplement impossible. Bon. Donc ce n'est pas souhaitable. C'est donc le manque de connaissances que nous avons de l'enchaînement des mécanismes, et en particulier des mécanismes, de l'intersection des mécanismes naturels et des mécanismes humains, qui fait que nous reconnaissons la contingence, nous pouvons et devons reconnaître la contingence, l'accepter, ce qui est la condition de possibilité de la compassion.
Mais ne peut-on pas dire qu'il ne s'agit pas simplement du manque de connaissances, que nous avons des enchaînements causaux que nous observons, qui sont à l'origine du mal, mais aussi la volonté de ne pas le connaître, ou surtout la volonté de ne pas céder à la tentation, d'y plaquer une intelligibilité produit de notre esprit, qui fait système, qui installe une rationalité et qui, d'une certaine manière, construit ces phénomènes de façon qu'ils soient satisfaisants pour notre esprit.
Mais la solution voltairienne, appelons-la ainsi, hein, c'est peut-être un peu facile. La solution voltairienne ne consiste pas à faire l'éloge de l'ignorance. Elle consiste à reconnaître l'impossibilité d'une connaissance parfaite.
Et elle conseille de résister à la tentation de trouver absolument des intelligibilités ou des interprétations.
Mais bien évidemment.
Et la théodicée, après tout, était l'une de ces interprétations.
Certainement.
On peut le dire incontestablement. Les événements qui se déroulent actuellement au Japon nous amènent dans un ordre de catastrophe qui a été rarement vu au cours des dernières décennies. Vous en avez rappelé tous les aspects tout à l'heure, Jean-Pierre Dupuis. C'est une catastrophe où tout se trouve lié et qui, aujourd'hui, quelques jours après le début des événements, prend véritablement la signification d'une fatalité, d'une effroyable fatalité s'abattant sur un peuple. Et on a maintes raisons de penser que ce n'est pas simplement un peuple, c'est ce peuple-là qui semble être désigné comme la victime de cette fatalité. Faut-il résister à cette manière de considérer les choses ?
Ben, je vous remercie d'avoir utilisé le mot de fatalité. Le mot que tout le monde utilise dans ces cas-là, vous le savez, c'est le mot de risque. Or, je crois que ce mot est tout à fait trompeur. Un risque, c'est quelque chose qu'on prend. On fait des calculs coût-avantage, on fait des calculs d'espérance, de mathématiques, d'utilité, etc., etc. Il s'agit, en apparence, d'une fatalité. Alors, la solution que moi j'ai proposée dans divers ouvrages, sous le nom de catastrophisme éclairé, consiste à raisonner de la manière suivante. Tout se passe comme s'il s'agissait effectivement de fatalité, mais d'une fatalité pour laquelle, ou par rapport à laquelle, nous avons le pouvoir de faire qu'elle ne se produise pas. Ça paraît contradictoire, mais enfin, il y a des précédents dans l'histoire de la philosophie à cette idée. Hein, par exemple, il y a la notion heideggerienne de choisir son destin. Choisir son destin, c'est une expression qui paraît contradictoire. Enfin, le destin, c'est ce qui nous tombe dessus, la fatalité. On ne le choisit pas. Mais justement, je crois qu'il faut prendre au sérieux cette idée. La fatalité, plutôt le destin de l'humanité, c'est peut-être effectivement l'autodestruction, mais c'est un destin que nous avons le choix, le pouvoir d'écarter de nous. Hein? Donc c'est cela qu'il faut penser. Bon, ce n'est pas en quelques minutes que je vais pouvoir développer cette idée, mais je crois qu'il faut effectivement, et je vous remercie d'avoir utilisé ce mot, remplacer, quand on pense toutes ces choses, la notion de risque par celle de fatalité, en n'étant pas dupe de ce que l'on dit ainsi. C'est une para-fatalité, une quasi-fatalité, quelque chose. D'une certaine manière, j'essaye de réhabiliter la sagesse populaire, celle de mes cousins, les paysans du sud-ouest de la France. Quand un événement grave se produit, on dit il était inévitable que ça se produise. C'était écrit. Ça ne veut pas dire qu'avant que l'événement fatal se produise, on considérait qu'il était inévitable. C'est une sorte de fatalité rétrospective, si vous voulez. Hein? Une fois l'événement catastrophiste produit, on peut dire qu'il était inévitable qu'il se produise. Mais avant qu'il se produise, il n'était pas inévitable qu'il se produise.
Et cela signifie que des mesures peuvent être prises pour empêcher qu'il ne se produise.
Ah mais bien évidemment. C'est pourquoi ce n'est pas un fatalisme. La solution que je propose sous le nom de catastrophisme éclairé n'est pas un fatalisme.
Mais alors que reste-t-il face à cette inévitable fatalité, même si c'est une fatalité dont on peut rendre compte d'un point de vue causal en amont et qui apparaît comme telle lorsque, d'une certaine façon, les événements sont survenus. Que reste-t-il de la prudence humaine avec ce qu'elle suppose de capacité à apprécier dans la situation même, dans la particularité de la situation, ce que l'homme peut faire de mieux? Que reste-t-il de la, au fond, part de rationalité et même de part de calcul, de pondération, de toutes ces vertus intellectuelles qui sont intrinsèquement attachées à la définition traditionnelle de la prudence humaine?
J'imagine qu'en tant qu'éminente spécialiste de la philosophie grecque, quand vous dites prudence, vous pensez à la phronésis. Bon. Le problème, c'est qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, surtout au XVIIe siècle d'ailleurs, avec l'invention du calcul des probabilités par Pascal, Fermat, etc., la prudence a acquis une toute autre physionomie, si je peux dire, et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le calcul coût-avantage, le calcul des probabilités, le calcul des espérances mathématiques d'utilité, etc. Et c'est cette forme de prudence qui est condamnée par les événements que nous vivons depuis la seconde moitié du XXe siècle.
Faut-il pour autant revenir au sens le plus ancien de la prudence, comme capacité de discernement?
Je crois que c'est impossible, car, et c'est là que je suis tout à fait arendtien et andersien, enfin, disciple de ces deux, nous avons montré, c'était sans doute inscrit dans l'histoire de l'humanité dès le départ, que nous nous sommes montrés à nous-mêmes que nous étions capables de produire des phénomènes, de déclencher des mécanismes qui dépassaient complètement notre entendement. Et donc la notion classique de phronésis, ne s'applique plus ici, ni la notion de calcul coût-avantage. La prudence adaptée aux catastrophes, aux menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité, je crois, c'est une notion qui est complètement inventée aujourd'hui. Complètement inventée.
Bien, ce sera l'objet de réflexions ultérieures. Merci Jean-Pierre Dupuis.
Merci beaucoup de votre invitation.
Entretien. Merci à François Connec qui a réalisé cette émission et à Jean-Richard Dufour qui était à ses côtés, qui était responsable de la technique. Merci à Marie-Claire Matout. La semaine prochaine, nous parlerons d'un tout autre sujet, non sans lien d'ailleurs avec celui terrible que nous avons abordé aujourd'hui. L'Apocalypse, mais adouci par l'étude précise de la représentation des thèmes de l'Apocalypse dans la tapisserie d'Angers. À lundi prochain, si vous le voulez bien. Et d'ici là, très bonne semaine à tous. N'oubliez pas, demain, les racines du ciel avec Frédéric Lenoir.